Vous écoutez
RMC.
Alors là, elle frétille, elle a drôle de dame. Pourquoi ? Parce que c'est le retour de la Ligue des Champions. Et oui, c'est leur moment, c'est leur semaine. C'est là qu'elle se régale, qu'elle met des tôles au club français.
Où elle vient à Paris ?
Elle vient à Paris, en plus.
Dorénavant, elles sont à Paris.
Et oui.
Les paillettes.
Elle profite de la ville lumière.
Le Moulin Rouge.
Exactement. Notamment Fred Hermel, qui est là. Salut Fredo.
Hola chicos.
Les établissements de nuit.
Coquin. C'est plus que, c'est
malin.
Plus que ça a été.
Attention, nous avons également parmi nous Julien Laurence.
Michou.
Julien, Chantal. Bonsoir.
Salut à tous.
Et Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Lequel des quatre on imagine au Moulin Rouge ?
J'ai dû y aller une fois dans ma prime jeunesse.
Ouais, Polo, allez.
Polo Moulin Rouge.
J'attends les prochains.
Non, je suis allé à l'Alcazar, je m'en rappelle.
Pour
mes 20 ans, j'ai eu le droit à l'Alcazar.
À l'Alcazar.
T'es allé à l'Alcazar.
Avec Julien ?
Ouais.
Cazar.
Ça, c'est nul,
vraiment. Gilbert, des 4, tu imagines qui au Moulin Rouge, toi ? Compliqué, quand même.
Moi, j'allais dans les boutiques à côté.
Plus compliqué, des 4 qu'on imagine au cabaret chez Michou.
Fred. Ah bon, j'adore ça.
Fred, bah oui.
Je crois que je suis déjà allé. Je suis pas sûr,
oui,
mais.
Oui, Fred.
Ouais.
C'est totalement
arménien. C'est sympa. Quoi.
Bah oui. J'ai Régine aussi.
Bon, alors les gars.
Attends, j'ai passé un nouvel an chez Régine, j'ai pas terminé.
Lily la Tigresse.
Chez Mimi la Tigresse ?
Ça a vraiment existé, ça, non ?
Ouais, ça a existé, bien sûr.
Au chien qui fume.
Peut-être pour l'eau.
Au chien qui fume, c'est un grand endroit des artistes, Picasso, etc.
Exactement, c'est ça, Fred, je me rappelle plus.
Ça existe toujours, et en fait, ce sont les. Du style récit de Bru, en fait, les chansonniers, etc., des vieilles chansons.
C'est pas terrible dans ces endroits-là.
Frédéric Zermati qui chante Aznavour, par exemple ?
Voilà, par exemple.
C'est les. Ton porte-monnaie doit être bien garni quand même, quoi, parce que le nombre de billets qui sortent pour dire merci à tout le monde, c'est dingue.
Eh oui, que veux-tu ? Alors Fred, on va démarrer par toi, parce qu'évidemment, le meilleur entraîneur français du monde, du football...
Oh, de la galaxie et de tous les temps.
Et là,
Dieu,
attention, Fred a commandé sa musique. Jingle. Fredo, que se passe-t-il pour Zidane à Madrid ?
Alors, j'ai écouté, bien entendu, juste avant... que nous arrivions de les drôles de dames, l'intervention de l'ami Daniel. Il y a un mois, il n'était pas menacé, Daniel. Alors que là, il est vraiment menacé. C'est-à-dire que s'il perd demain à Istanbul contre Galatasaray, je pense que Zidane sera remercié dans les heures qui viennent. En tout cas, ce sont les... Il y a une drôle d'ambiance autour de Zidane. Les gens à l'intérieur du club qui commencent à dire du mal. Zidane est au courant de tout, bien entendu. Ça l'énerve un petit peu.
Il l'a dit dans la conf quand même, c'est
ouais,
rare, c'est un entraîneur qui parle des rumeurs, il en a parlé.
Bonne analyse, parce que normalement il balait ça d'un revers de main, mais là il sait vraiment qu'il y a des gens qui disent du mal de lui, il y a beaucoup de gens qui parlent, enfin il y a certaines personnes, vous savez, des gens qui aiment toujours caresser dans le sens du poil le président, au lieu de lui dire « ne te précipite pas, fais attention, tu serais toi en première ligne après, ouais t'as raison, t'as vu, fais pas jouer les jeunes, ah bah si, fais jouer Vinicius, ouais non, bah enfin, mais non, pas ça, mais par exemple, tu vois Courtois, ouais mais Courtois, c'est pas, lui ne voulait pas, c'est, non mais pas ça, bah, tu vois ce que je veux dire, enfin bref, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et c'est vraiment la première fois, vraiment la première fois, depuis que Zidane est entraîneur du Real Madrid, que j'entends dire des choses qui ont été dites sur Ancelotti, qui ont été dites sur Benitez, qui ont été dites sur Mourinho. Vous savez, dans les grands clubs, il y a des super coachs, il y a toujours un moment où il y a des gens qui disent du mal, hein, ça, il suffit de faire une défaite, un match nul. Donc là, Zidane est en train de manger son pain noir au Real Madrid. Il est vraiment... oui, il est en danger.
Pourquoi il est en danger ? Avec Mourinho en embuscade ?
Ah bah oui, alors
ah bah oui.
Il fait un lobbying, mais il a un lobbying de truc. Dès qu'il y a une conférence à faire en Espagne, il vient. Salut, c'est moi. Voilà, alors en fait vraiment là. Et puis on sait très bien et on l'a toujours dit que Florentino Pérez a toujours gardé un très bon souvenir de Mourinho, même si Zidane a quand même gagné en 2 ans et demi 7 titres de plus que Mourinho en 3 ans, hein, parce que Mourinho gagne une Liga et une Copa, Zidane 3 Ligues des Champions, une Liga, Super Coupe d'Europe, 3 Champions du Monde. Enfin bref.
Comment t'expliques le revirement hors les rapports Florentino Pérez Zidane dont on a parlé, mais que des gens autour du club commencent comme ça
résultats tout simplement. C'est tout con, mais il y a pas de patience au Real avec les résultats. D'ailleurs l'an dernier ils ont quand même pris trois, ils ont quand même, la saison dernière il y a quand même eu 3 entraîneurs. Il y a eu Lopetegui, il y a eu Solari et il y a eu Zidane. Donc à partir du moment où les résultats sont pas super, bon, le Real est deuxième à un point du Barça, de la Liga quand même.
C'est ça qui est...
Mais on continue de lui imputer le comment dire le ce qui s'est passé durant le mercato et le choix de mec enfin, tu vois, je sais pas, est-ce qu'on continue de lui dire, t'as pris des remplaçants, en gros, Jovic, c'est remplaçant de Benzema, Ferland Mendy, c'est remplaçant de Marcelo, comment il s'appelait le mec, là, qui jouait à gauche, là, qu'ils ont fait partir, là, qu'ils auraient pu garder plutôt que de prendre Mendy?
Ouais, mais Reguilón, c'est un jeune, il a été prêté.
Ouais, mais il y a pas mal de gens en Espagne qui.
Oui, bien sûr. Mais oui, parce que les gens connaissent pas le foot. Donc, Mendy, je peux t'assurer que
je te dis ce qui se dit. Voilà.
Ouais, bien sûr. Non, bien sûr, mais tu as raison.
Il y a beaucoup qui parlent de ça.
C'est plus qu'un remplaçant. Demain soir, il sera titulaire. Parce que c'est un match décisif et il va vouloir se protéger.
Et la jeune classe des Madrilènes qui s'est un peu. Bon, tu me diras qu'Asensio est blessé.
Asensio est blessé.
Mais l'année dernière, il était déjà perdu. Il a complètement vrillé. Il sortait énormément.
Bah, tout le temps.
Il partait pareil, puis il rentrait même plus tard que Verratti, grande époque.
Ouais, mais non, mais ça, c'est clair.
Maintenant, il s'est beaucoup calmé, Verratti.
Voilà, et puis franchement.
Sans parler d'Isco.
Ah, bah, Isco, il est perdu pour le football. Enfin,
ce genre de choses-là, on met ça sur le dos de qui? Que ces mecs-là aient été perdus comme ça, parce que c'était quand même des super joueurs.
Ils n'étaient pas là. Zidane n'était plus là la saison dernière quand ces mecs-là se sont perdus. Donc, parce qu'on se souvient quand même qu'avec Zidane, Isco, par exemple, était en finale de la Ligue des Champions. Hein, il était titulaire devant Bale.
Mais toi, Liverpool. Tu veux dire que avec Zidane, ça aurait pu marcher. Il est dans la capacité de relancer Asensio, par exemple.
Ah, bah, Asensio. Enfin,
c'est lui qui s'est fait les croisés. Oui, mais si tu penses que s'il était là.
Oui, avec Zidane, ça marchait.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est lui qui l'a découvert plus ou moins. Donc...
Il y a un truc sur la conf de presse, Fred, parce que toi, tu y as assisté, évidemment. Il y a un passage qui me paraît aussi très fort et très typique un peu du Zidane qu'on a appris à connaître en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. C'est comme une énorme force de caractère, parce qu'il dit qu'il aime bien ce moment-là, ce moment de la mise à mort, tu sens que ça le chauffe. Ouais.
Mais est-ce qu'il a envie vraiment de s'accrocher au bout, ou c'est parce que Zidane a tellement tout le temps eu l'habitude d'être aimé que de sentir un peu de désamour, c'est pas assez nouveau pour lui.
Justement, je
n'écarte pas le fait qu'il soit lui qui claque la porte. Hein. Il l'a déjà fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire que s'il se sent vraiment trahi.
Parce que lui, il aime pas ça, il est pas habitué à ça. C'est un gars qui a toujours eu de l'amour autour de lui. Sentir que d'un coup.
Tant d'amour autour de lui, enfin.
Zidane, c'est quand même vrai.
Mais ça, Daniel, c'est intéressant. Ça, c'était vrai quand il était joueur.
Ouais,
mais quand t'es entraîneur, tu rentres dans la politique. Non, mais Fred, le dira, mais là, il a raison. Non. Dès que ça va un peu moins bien, t'en prends plein la gueule.
Bien
il a
sûr.
Appris à gérer avec un club le plus compliqué au monde.
Un nul, il en prend plein la gueule. Donc voilà. Donc en fait, mais ce qui est énervant, c'est que les dirigeants du Real sont apeurés. Parce que ça fait un moment qu'il ne gagne plus et qu'on essaye de charger la mule, quoi. Et la mule, c'est Zidane, parce qu'on essaie de se dédouaner.
Maintenant que tu nous as fait cette photographie, le match de demain, donc Galatasaray, qui va quand même vachement mieux, ils ont remonté au championnat. Donc,
dans le contexte, pour le Real, c'est chaud.
C'est là-bas, évidemment. Galatasaray qui.
Sur un 2-2 contre Bruges.
Les deux clubs ont un point, donc Galatasaray doit absolument gagner aussi pour rester en vie.
Si le Real gagne champion. En Turquie, le Real n'est pas super bien embarqué, hein.
Ah non, bah, si le Real et surtout s'il perd,
c'est bouillant. Ouais.
Et donc ça veut dire, et pour le Real, mais la honte, mais c'est des mots qu'on m'a dit de l'intérieur du club, ce serait la honte de jouer la Ligue Europa, quoi. Mais la honte.
Tiens, alors, donc, Fred, ok, mais alors maintenant, imaginons que le Real gagne à Galatasaray. Est-ce que lors du prochain match de Liga, la situation sera toujours la même? Ou est-ce que ça lui offre un répit au moins de 15 jours?
Mais non, c'est plus qu'un répit, c'est que ce club est passionnant. Mais il est énervant aussi, c'est parce que ça monte et ça descend comme ça. Demain soir, Zidane, c'est peut-être le meilleur entraîneur du monde. Hein. Tu sais, s'il gagne 3-0 facile, etc. Nana. Vous savez, il y avait le sentiment au sein du staff qu'il y avait peut-être un risque, 3 jours après le PSG, quand ils vont jouer à Séville. Les mecs qui font un match excellent, ils gagnent 1-0. C'est Séville qui était leader à l'époque et c'était de nouveau tout rose pour Real, pour Zidane et pour le Real. Donc c'est vraiment du match après match et on peut jamais tirer de conclusion. Moi la seule nouveauté, c'est qu'il y a vraiment l'épée de Damoclès et qu'en cas de défaite, il est sûrement dehors. Ça c'est vraiment quelque chose qui était pas là avant. Mais parce que le Real, s'il perd, est dehors de la Ligue des Champions. Donc son entraîneur serait en dehors.
Non, le Real n'est pas dehors. C'est parce que si le PSG gagne 2-2,
Si Bruges gagne le PSG, t'imagines la situation avec le Real.
Ça veut dire qu'ils ont 3 points de retard sur Galatasaray, parce que ou alors faudrait que Bruges gagne aussi face au PSG.
Si Bruges et Galatasaray gagnent, t'as le PSG qui a 6 points, t'as Bruges qui a 5 points, t'as Galatasaray qui a 3 et le Real a 1 point à la moitié. Ouais, tu vois, donc tout ça est quand même un peu dangereux. Après, sérieusement, et ça, outre le discours de Ramos en conférence de presse, moi, les infos que j'ai du vestiaire, c'est qu'ils sont à mort avec le coach. Vraiment. Mmh. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils adorent Zidane et qu'ils croient en lui vraiment. Et l'autre aussi, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir Mourinho.
Tu vois. Donc, alors, avant de continuer, c'est fini en Ligue 2, Jean Baumel, entre Lens et Auxerre.
Ouais, 0-0, Lens qui a sa série de 4 victoires consécutives stoppées. Mais bon, voilà, c'est un point de prix généralement. Quand il y avait un bon coup à faire, Lens perdait. Là, ça fait un point, et pour Auxerre, forcément, ils sont très contents, parce que eux, ils ont été venus, justement, pour ne pas trop jouer. 0-0, score logique, Lens qui reste forcément deuxième à 3 points de Lorient.
Merci, Djibo, bonne soirée. Sur Zidane, on a fait le tour, les gars.
Ouais.
On passe à la suite. Très bien. Alors, tiens, Simone Rovera nous a rejoint. Simone, bonsoir.
Ciao, Anasera, bonsoir.
Salut Simone. Alors, petit tour d'Europe. Donc, on a bien compris que le match le plus important de la semaine en Ligue des Champions en Espagne, c'est le Real à Galatasaray. Quel est le match le plus important de la semaine en Angleterre en Ligue des Champions, Julien?
Alors, ce sera sûrement pour Tottenham, Gilbert, qui traverse une période assez compliquée. On l'a vu encore en championnat samedi contre Watford à domicile, où ils s'en sortent en faisant un partout avec un but de Dele Alli en fin de match, alors que la VAR leur a sauvé un petit peu la mise, puisqu'il aurait dû avoir un penalty pour Watford quand Watford menait 1-0. Et qui n'a pas été accordé par la VAR et par l'arbitre de la rencontre. Ils reçoivent l'étoile rouge de Belgrade mardi soir, donc au Tottenham Stadium. Si tu gagnes pas là, je pense que on rentre vraiment dans la crise et Pochettino, même s'il restera en place, parce qu'ils vont pas virer Pochettino, mais ça deviendra de plus en plus compliqué pour les joueurs.
Tu crois qu'il est pas du tout menacé, Pochettino ?
J'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Parce que, un, je vois pas qui pourrait le remplacer déjà, depuis qu'Allegri a dit qu'en plus il reprendrait pas un club en cours de saison cette saison.
On parle pas du tout de Laurent Blanc ?
On parle pas du tout de Laurent Blanc, non, même si Serge Aurier sûrement serait ravi de voir Laurent Blanc débarquer à Tottenham.
Mais c'est comme Jean-Louis Gasset a poussé une gueulante là, comme quoi on manquait beaucoup de respect à Laurent Blanc et tout. Je me disais qu'en Angleterre on se comportait mieux et qu'on lui manquait pas de respect, qu'on pensait à lui.
C'est vrai, on lui manque tellement pas de respect qu'on n'en parle pas du tout. Pour être honnête avec toi, donc, comme ça c'est plus simple, qui est une forme de respect en soi.
Effectivement.
Même à Manchester United.
C'est son club, la place est chaude depuis très longtemps. On sait que ça viendra, ça va finir peut-être.
Elle lui a réservé, mais
ça viendra, c'est réservé. Manchester, c'est réservé.
Mais sinon, le Ajax-Chelsea, qui bizarrement ne se sont jamais rencontrés dans l'histoire des Coupes d'Europe, qui devrait être un match vraiment, vraiment intéressant et sympa à suivre entre deux équipes très offensives et Chelsea qui est dans une bonne période en ce moment avec les victoires qui s'enchaînent, les jeunes qui jouent de mieux en mieux et cette équipe de l'Ajax qui est toujours aussi belle à voir jouer. Donc pour moi, c'est ces deux matchs-là pour deux raisons différentes, plus que le Manchester City-Atalanta qui pourrait aussi être très spectaculaire et très attrayant à voir, et plus bien sûr que le déplacement de Liverpool à Genk.
En Allemagne, quel est le match important à suivre en Coupe d'Europe cette semaine, Polo ?
Ah bah c'est très compliqué de répondre à ta question, parce que j'ai envie de dire les quatre ou aucun. C'est-à-dire que le Fred a dit quelque chose de très important pour le Real Madrid. J'ai envie de parler du Bayern Munich, où théoriquement le déplacement de l'Olympiakos c'est pas le plus important, sauf qu'il y a une hystérie complètement dingue autour du Bayern Munich et des deux points encore lâchés ce week-end dans le derby bavarois contre Augsbourg, avec notamment un but encaissé dès la première minute et un but encaissé à la 91e. Et le Bayern Munich phagocyte l'ensemble, quasiment 80% de l'actualité médiatique en Allemagne. Alors qu'il y avait un super match entre Dortmund et Mönchengladbach. Donc, si tu veux.
Le leader, Mönchengladbach, dis donc.
Mais toujours leader. Et en plus, j'ai envie de dire, il n'y a aucun perdant, en fait, du match contre Dortmund, parce que Mönchengladbach a joué avec Marco Rose, évidemment, son nouveau coach, disciple de Jürgen Klopp, quasiment à égalité au niveau du jeu avec le Borussia Dortmund, qui avait quand même un effectif un peu supérieur. Mais pour revenir au Bayern Munich, si tu le permets, Daniel, ça fait quand même le quatrième match consécutif que le Bayern encaisse deux buts. Les Français, Hernandez, Pavard, je suis désolé, mais enfin, en ce moment, ils sont pas du tout au niveau. En tout cas, leur intégration est complexe.
Même Hernandez.
Ah ben Hernandez, c'est pas bon. Sur l'égalisation, il est complètement coupable. Il se fait complètement déboîter par l'attaquant Cordova d'Augsbourg. Et le placement de Pavard, aussi bien sur le premier que sur le second but, est catastrophique. Mais ça, c'est depuis le début de la saison. Ce qui est intéressant, n'oubliez pas, Niklas Süle s'est fait les croisés aussi. On ne sait même pas s'il va jouer le championnat d'Europe 2020. Vous avez évidemment Lyonnais.
J'ai même lu que Lyonnais disait qu'il ne jouerait pas. Je sais pas si
il y a 10 minutes disait qu'il jouera peut-être pour 2018, on sait pas trop s'il sera là.
Ah Mataos, ça fait longtemps qu'on est pas.
Et tout si tu veux, on est dans une ambiance en ce moment un petit peu Lodar, le Panzer comme on disait en Italie.
Qui a quand même le baf de Lisa.
Oui, de Lisa. Qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment de l'hystérie pure qu'on a autour de ce club. On retrouve évidemment toutes les critiques à l'encontre de Niko Kovac qui a fait une erreur stratégique en s'excusant des paroles qu'il a eues contre Thomas Müller quand t'es en Bavière. Tu es à Munich, tu ne t'excuses pas. Je suis désolé. Ça a été souligné comme un point de faiblesse du coach.
Que globalement, tu t'excuses pas.
Ouais. Sinon, en gros, tu t'excuses pas parce que. Mais oui, mais c'est le mia sans mia. C'est nous sommes qui nous sommes. Quoi. Nous sommes là pour gagner les 50 matchs de l'année et mettre 3-0 à tout le monde. Et voilà. Donc dès que tu commences à montrer un petit peu de faiblesse, mais y compris dans la communication, lorsque Niko Kovac dit après la défaite à Hoffenheim, bah finalement on aurait pu vivre avec un 2-2. Les Bavarois ils comprennent pas. Ils disent mais qu'est-ce que tu nous fais là? T'es à Munich là. T'es pas dans un club amateur. Toutes ces choses-là font que ça ne va pas en ce moment. Rappelons quand même que Niklas Süle, c'est aujourd'hui le patron de la défense centrale, qu'il est plus là, qu'on sait pas trop comment ça va se passer. Évidemment, où Lyonnais sort du bois pour dire, ah bah, c'est pas grave, il y a Martinez qui doit jouer, etc. Donc, on va remettre Kimmich à droite. Pavard va passer en défense centrale. Alaba, qui était blessé, est forcé de rentrer après 10 minutes. On sait pas trop comment tout ça va donner. Et donc, en fait, tu as tous les problèmes depuis le début de saison, dont on a souvent parlé, qui se focalisent évidemment sur Niko Kovac. Vous avez même un coach qui s'appelle Friedhelm Funkel, qui est le coach de Düsseldorf, qui a allumé Kovac en faisant comprendre qu'en gros, il était surcoté. C'est quand même assez intéressant ce qui se passe en ce moment. Je voudrais juste rappeler, par exemple, qu'il y a un Thomas Wagner, que vous ne connaissez pas, qui est un journaliste allemand, qui a allumé Rummenigge, parce que Rummenigge, évidemment, en conférence, lorsqu'il avait présenté Hernandez, il avait dit que c'était le meilleur défenseur de Bundesliga, ce qui fait aujourd'hui rigoler toute l'Allemagne en entier.
Alors, dans quelques instants, Simone nous dira quels sont les matchs à suivre en Italie. On fera également un point sur vos championnats respectifs. Alors, la Bundesliga, elle est serrée comme jamais. Hein. Comme la Ligue 1. Alors, en Ligue 1, on dit que c'est nul. Alors, est-ce qu'en Bundesliga, on dit que c'est nul? Polo nous dira ça dans quelques minutes. Oui, c'est vrai que la Ligue 1 aussi. C'est vrai que c'est serré presque partout. Là. Bon, l'Italie, c'est comme d'hab.
Heureusement. Au début de la saison, si c'est pas serré maintenant, c'est quand?
C'est vrai.
Dans deux mois, la Juve aura 15 points d'avance.
Ouais, bah profite, Simone. En tout cas, on se retrouve tout de suite. Et si vous avez des questions à poser au Drôle de l'âme, profitez-en. C'est tout de suite, c'est maintenant. 32-16, Max vous attend. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, 21h30.
L'after foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, les Drôles de l'âme sont toutes là, bien sûr, pour leur semaine européenne, évidemment. Alors, on a fait un petit tour, sauf l'Italie. Donc, Simone, quelles sont tes affiches de la semaine, ou même l'affiche de la semaine en Coupe d'Europe?
Bah, l'affiche est un peu partagée. Pour l'instant, peut-être aussi parce que c'est dément. En Italie, on parle énormément de match de l'Atalanta face à Manchester. Un peu parce que c'est un spectacle toujours à l'Atalanta, sauf en Ligue des Champions. Même si c'est aujourd'hui leur passif, c'est très lourd, c'est-à-dire deux défaites, mais avec du beau jeu, surtout face à Shakhtar qui n'a amené rien, malheureusement. C'est les matchs entre les meilleures attaques de la Serie A, les meilleures attaques de la Première Ligue. Et en plus, il y a cette cote qui monte toujours de Gasperini sur la facilité avec laquelle l'Atalanta joue, le spectacle.
Mais est-ce qu'il a cherché à expliquer pourquoi Ligue des Champions, il s'était pris deux tartes et que ça n'avait pas collé?
Bah, la deuxième tarte, en vrai, c'est vraiment, on peut dire, l'absurde du football, parce que l'Atalanta fait, je pense, 17 occasions, il frappe toujours, il frappe plein de fois au but, rate un penalty, et Shakhtar marque de but presque sur les deux occasions qu'il a. C'est un match vraiment bien joué et presque dominé de l'Atalanta qui n'arrive pas à faire des points. Après, comme c'est les derniers espoirs pour l'Atalanta pour vraiment faire quelque chose dans cette Ligue des Champions, vu vu que Manchester parfois dans la phase des poules s'endort un peu, pourquoi pas rêver. Et en Italie, on considère vraiment que l'Atalanta peut aller faire un match intéressant, mettre en difficulté Manchester, et on la vend bien. Aujourd'hui, Guardiola, il a dit c'est la joie à voir jouer l'Atalanta. Un peu, bon, on sait très bien que entre les entraîneurs, il s'aime beaucoup. Et Guardiola, c'est quelqu'un qui parle toujours bien des entraîneurs, surtout en Italie. Il parlait bien de ça.
Et souvent, quand Guardiola et ses équipes croisent des équipes qui jouent bien, ça finit souvent à son avantage et en raclée.
Oui,
comme contre Napoli. Contre Napoli, d'ailleurs.
Avec Napoli, c'était 2 victoires, mais c'était 2-1, je pense. Et avec Napoli, qui avait quand même eu des bonnes phases des jeux. Après, aller battre Manchester City, il faut pas un miracle. Il faut 2 dans les mêmes matchs. Donc,
il faut s'appeler Lyon.
On sait très bien. Il faut s'appeler Lyon, mais l'Atalanta s'appelle pas Lyon.
Mais
pour l'instant, on parle vraiment beaucoup de ce match. Beaucoup. J'ai l'impression que si c'était pas pour Ronaldo et qu'aujourd'hui était en conférence de presse, on parle presque plus de Manchester-Atalanta que du match de la Juve. Et après, mercredi, là aussi, c'est le dernier appel pour l'Inter face au Borussia Dortmund. On sait très bien que c'était déjà compliqué au début pour l'Inter dans ce match, qui sort sur un match à 2 visages, un championnat, 4 buts marqués, 3 encaissés, et une finale de match où, après avoir mené 4-1, ils ont risqué de se faire rattraper. Et Antonio Conte, il était furieux. On va voir si en Ligue des Champions, l'Inter va continuer à chercher de faire des points, va chercher finalement de gagner un match et de rentrer un peu dans l'ordre de jouer la qualification, ou si, comme on imaginait depuis le début, la Ligue des Champions, c'est presque
secondaire.
Oui, c'est presque un accident de parcours sur en route qui doit mener l'Inter le plus loin possible à jouer les titres avec la Juve, même si je me rends compte qu'il y a aujourd'hui une différence énorme. L'Inter a 12-13 bons joueurs, peut-être 12 plus 12 que 13. Et si tu as 2-3 absents de top niveau, l'Inter sera très très loin de l'Inter, de la Juve dans la saison. Alors, ça me semble toujours plus clair. Ça.
Sur la Juve, un mot quand même, parce que Cristiano dit aujourd'hui je suis très content de l'arrivée de Sarri, on joue plus offensif.
Bah, il dit on joue mieux, on est content, on a plein d'occasions, malheureusement pour l'instant on marque pas, et c'est vrai, la Juve fait plus d'occasions mais n'arrive moins à marquer. Sarri s'est préoccupé de ça en disant avec les attaquants que j'ai aujourd'hui, il marque pas, mais demain si on continue à marquer, à créer autant d'occasions, on va marquer. Mais la chose qui pour moi c'est extraordinaire, c'est que pratiquement on le savait déjà que Cristiano n'était pas vraiment fan d'Allegri pour la façon de jouer, pour des styles trop défensifs, mais aujourd'hui il dit on est mieux, on joue mieux, on s'amuse, pratiquement il enterre Allegri en disant finalement ça est arrivé. C'est, si on peut lire entre les lignes, il n'y a pas vraiment besoin, parce qu'il est toujours très très clair Cristiano Ronaldo, même quand il met une tacle à la Juve, pour moi quand il dit la Juve c'est un grand club, doit penser grand. Un peu comme à dire, on ne doit pas seulement espérer de gagner la Ligue des Champions, on ne doit pas rêver. Nous, on est un grand club, nous, on doit penser de gagner la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on a vu un Cristiano vraiment prendre, pas seulement la parole, prendre la une de la Juve, devenir la Juve. Et je pense que ça fait vraiment du bien au monde de Juve d'avoir Cristiano qui parle. Parce que c'est extraordinaire. Vraiment, moi, je suis tombé sous les charmes de Cristiano, encore plus de le avoir entendu que de le voir vu jouer, parce que j'ai vu vraiment prendre les contrôles de la Juve et donner 2-3 punchlines très intéressants. Comment il ferme la porte de l'époque Allegri, je pense que pourrait être très bien, très positif pour le monde Juve. Ouais. Il pourrait faire changer d'avis.
C'est dans cette interview qu'il a dit à quel point il était heureux d'avoir la chance de jouer avec Rabiot ou pas.
Il parle bien de Rabiot, il parle bien quand même. Hein. Il dit que les travails qu'il fait.
Son match de ce week-end,
Rabiot,
je sais pas, c'était quoi, 8 sur 10, il a eu comme note un peu dans tous les médias, Rabiot.
Non, elle a été suffisante. Il a eu la note suffisante. Globalement, il a eu presque toutes les notes suffisantes sur tous les quotidiens. Ouais. Je pense qu'il y a
c'est
eu.
La moyenne suffisante, ça veut dire c'est la moyenne en France.
Oui, 6, c'est la moyenne.
On peut pas dire qu'il est totalement convaincu. Hein.
Bah, tu sais que Sarri continue à parler bien de Rabiot. Hein. Ah bah, aujourd'hui
tu veux
encore.
Tu veux dire on a recruté un tocard ? Il ne va pas dire ça, voyons.
Il continue à dire qu'il progresse. Il continue à progresser, il va devenir important.
Daniel, il a un début de saison compliqué. Il est titulaire avec la Juve. On ne peut pas dire qu'il a été renvoyé aux oubliettes.
Il est titulaire.
Non, mais si, il a joué là.
Mais non, il a joué ce week-end.
Il a fait trois matchs titulaires.
Ce que je veux te dire, c'est que.
Il est largement au placard.
Ce que je veux te dire, là, il est titulaire ce coup-là.
C'est pas au placard. Il a fait trois matchs titulaires déjà.
Tu mets pas un joueur titulaire à la Juve. Enfin, là, je te parle de ce match-là. Tu le mets pas si vraiment il est bidon.
Il est titulaire dans le match qui précède le mardi de Ligue 1.
D'accord. Mais je suis d'accord. Non, mais là, t'es injuste parce qu'il arrive. Mais il arrive dans un nouveau club. Il a du mal à se faire une place. Il joue, il a effectivement la moyenne et tu dis, il est toujours aussi bidon. Je veux dire, Rabiot n'est pas un joueur bidon. Oui, sans doute, mais il n'est pas encore intégré.
On rigole et il y avait même des blagues qui circulaient. Je veux dire, il va moins vite qu'un papy.
Non, mais ça, c'est injuste. Non, mais c'est injuste de faire un procès à Rabiot. Si, quand on l'aura vu jouer 10, 15 matchs, 18 matchs et que tu verras qu'il n'est pas bon, ok. Mais tu ne peux pas dire là, alors qu'il n'a pas eu la chance de jouer ou de pas jouer. Non, mais tu ne peux pas dire Rabiot, il est bidon et tout le monde rigole. Je suis désolé,
Les seuls joueurs titulaires qui arrivaient cet été à la Juve, c'est De Ligt, et c'est parce que Chiellini s'est fait les croiser. Je continue à les dire. Higuain, c'est pas une nouvelle recrue, mais on les connaît.
Oui, mais Higuain, c'est Chouchou du
patron. Bernardeschi, Pjanic, Kedira, Matuidi, Bonucci, D'Alessandro, et à droite, joue Cuadrado. C'est la même Juve d'Allegri qui joue dans une autre façon. Et si on doit s'intégrer dans cette Juve, il faut du temps pour tous.
Messieurs, dans quelques instants, on va parler de vos championnats respectifs, bien sûr, en Espagne. En Espagne, faut à Toulouse, un mot de Mallorca d'ailleurs. Je voudrais parler de Mallorca, moi. Ce sera dans quelques instants, mais tu vas faire le point sur le championnat.
Il est en train de préparer un week-end là-bas.
Pas spécialement. Non, mais il y a des trucs à raconter. Je pense que c'est un petit peu de valise dans ce club. Mönchengladbach, bien sûr.
Mönchengladbach, week-end, ça te dit?
Moi, pour un match de foot, ouais, j'aimerais bien aller voir un match de foot à Mönchengladbach.
À Mallorca ou à Mönchengladbach, t'as des Allemands.
En short à Mallorca, en culotte de peau,
sans oublier le championnat anglais vous me déstabilisez là, j'ai du mal à vous suivre. Et puis Manchester United, parce qu'on a Aboudé qui veut intervenir, qui veut poser des questions à Julien sur Solskjaer.
On a le futur neuf quand même des Bleus à Mönchengladbach.
Fais gaffe parce que Polo est pas fan.
Non, parce que lui il est pas fan de Thuram, mais il y a Plea.
Ah, c'est Plea, tu pensais à Plea.
C'est Plea qui a été appelé avec les Bleus récemment.
Oui,
donc,
il vient de se blesser. Donc,
c'est fini entre Sheffield et Arsenal, Julien.
Oui, malheureusement pour Arsenal, c'est fini. Une défaite 1-0. Je sais pas comment ils perdent un match comme ça. Sincèrement, Sheffield a deux tirs cadrés, dont le but qui est sur un coup de pied arrêté, un corner, où ils dorment un petit peu, les Gunners, défensivement. C'est assez incroyable. Tant qu'ils ne gagneront pas ces matchs-là à l'extérieur, tant qu'ils continueront à prendre des buts comme ça, ils pourront pas finir dans le top 4, ils pourront pas progresser, ils pourront pas, je sais pas si c'est plus la faute d'Emery, plus que les joueurs, etc. Mais c'est assez incroyable de perdre des matchs pareils contre des équipes pareilles.
Et puis, temps additionnel entre Brescia et la Fiorentina, Ribéry est sorti à la 87e, 0-0, Balotelli sur le terrain.
Il est rentré en deuxième mi-temps.
Mais toujours 0-0.
Il y a un but annulé au Français Florian Ayer, qui avait marqué un but.
Il est toujours pas prêt, lui, pour faire juste une entrée. Il est toujours pas prêt à démarrer.
Balotelli, qu'on m'a parlé des soucis au genou pendant cette semaine, il s'est entraîné pas au top, il a eu deux journées où il s'est pas entraîné, donc
on est fin octobre, il démarre toujours pas les matchs alors.
Après, il a un peu de pépins physiques.
Ouais. Allez, à tout de suite pour les championnats, donc avec les droits de l'âme et Julien Cazard qui nous rejoint dans quelques secondes. C'est l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC. Vu le fait que les joueurs soient ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis, ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Brébois.
Daniel Riolo est là, les drôles de l'âme sont là et Julien Cazard nous rejoint. Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Ça va Julien ?
Bonsoir, je suis bien. Bonsoir Fredo.
Tu sais que tout Montpellier t'attend la semaine prochaine.
Eh ben ils ont intérêt à m'attendre parce que je suis chaud moi. Je te le dire moi.
Très bien.
Je suis chaud patate.
Ou alors c'était aussi chaud qu'à Lille.
Ouais.
J'ai laissé quelques souvenirs impérissables.
T'es en forme hein, Lille.
Écoute, j'espère que l'accueil sera aussi beau que l'accueil des supporters que j'ai été dans le COP Montpellier-Rhin il y a quelques années.
Ah, ça s'était bien passé.
Il a failli m'en cuir.
C'est-à-dire, raconte.
Ah, c'était chaud. Il y avait deux, trois ritanos là qui m'attendaient, qui disaient, t'es viens. Et j'ai dit, ben, viens toi. J'étais dans le COP. Et il disait non, mais viens, parce que là, il voyait que les caméras de Canal me filmaient dans le COP. Il disait tiens, on va t'apprendre ce que c'est, les gitans. Il voulait sûrement me faire un bisou.
Qu'est-ce que tu avais dit demain?
Je les ai rappelés à leurs conditions gitans. Avec l'humour qui me caractérise.
Messieurs, Aboudé
et la finesse, évidemment.
Supporter de Manchester United, bonsoir.
Bonsoir messieurs, salut Gilbert, salut à tous.
Salut, ça va?
Salut.
Ciao.
Salut.
Vous allez bien?
Impeccable.
Ah ouais.
Bah, nous ça va.
Pardon Gilbert, avant de parler de Manchester, si je peux faire deux remarques.
Bien sûr.
La première elle te concerne. Bon, j'ai été très peiné il y a quelques mois par rapport à l'affaire. Comment tu t'es fait découper par des confrères et tout. Franchement, je les aurais face à moi, c'était pas glissé sur chacun d'eux. Donc voilà, tu vois.
Mais à quoi tu fais référence?
Ben... Voilà. Non, avec la blague sur Jérôme, tu te rappelles?
On s'est pas fait découper par les confrères.
T'as fait une blague sur Giroud, toi?
Twitter, mon pauvre, moi j'ai vu ça, franchement.
T'as fait une blague sur Giroud, j'étais violent.
Hein.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de blague sur Giroud, là?
Giroud, tu sais.
Non, la blague.
C'est pas terrible, comme blague.
Mais non, la blague avec Giroud.
La meuf Ligue des Champions.
Alors, voilà, c'est ça.
La vérité, vu, je t'assure que la proportion entre soutien et taillage, c'était du 80-20, quoi. Tu vois, comme quand t'as les as au poker. Donc ça va, on était tranquille.
Merci d'avoir pensé.
Merci de ton soutien, mon ami.
Non, et de ceux qui lisent tous tes bouquins, moi, j'ai lu tous tes livres, moi, je t'écoute depuis 7 ans, donc, franchement, t'es détracteur, on s'en fout un peu, quoi. Donc, voilà. Mmh. Et deuxième chose, j'ai bien, pardon, là, c'est juste vous féliciter pour la grille de la grille, elle est extra, quoi. Franchement, les retours, Polo, Julien Cazard et tout. Et chaque fois qu'il ouvre, je suis par terre, quoi. Il est énorme, Cazard. Donc,
je te dis tout de suite, tout ce qui est flatterie, ça marche pas avec moi. Alors, garde.
Non, mais vraiment, moi, je suis depuis des années donc, dans l'after, et puis, sur votre chaîne crypto, ça a été aussi, donc bravo. Franchement, bravo pour l'ensemble de la grille, quoi, en général. Donc,
et puis, Florent, merci à vous.
Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire en préambule.
Voilà. Les drôles de dames, t'aimes bien aussi?
Ah oui?
Ouais, ça va. Sauf, mais on
n'est
pas là.
tu voulais parler de Solskjaer.
Exactement. Il y a plein de rumeurs qui circulaient ces derniers jours qui disaient que si Manchester United perdait hier, ce qui était très probable, vu le niveau minable de jeu que nous avons, que Solskjaer se faisait virer et qu'en gros, Allegri était déjà en pole position, qu'il avait déjà pensé à deux éventuels joueurs pour le mercato hivernal prochain. Bon. Les deux placardistes de la Juve, Emre Can et Mandzukic. Bon, là, il n'a pas perdu, mais qu'est-ce qui va en être concrètement? Est-ce que Solskjaer, il peut se faire virer en cours de saison, ou est-ce que ça va être le calme plat finalement et peut-être la saison prochaine de redémarrer sur autre chose?
Alors, Julien.
Alors, pour l'instant, il a toujours la confiance du board et surtout d'Ed Woodward, hein, le patron du club et de la famille Glazer. C'est vrai qu'en cas de défaite hier et surtout en cas de lourde défaite contre Liverpool, il aurait été encore plus sous pression, mais Woodward l'avait encore répété la semaine précédente. Il a toute la confiance du board. Ils vont lui donner de l'argent à dépenser au mois de janvier pour recruter au moins 4 joueurs, dont un attaquant. Ça pourrait être Mandzukic, ça pourrait être aussi un autre joueur. Pour effectivement venir un peu renforcer cet effectif qui en a vraiment besoin. Maintenant, pour toutes les fois où on a été très critique envers lui dans cette émission, et on l'a souvent été parce qu'il a souvent pas été très bon, hier, il faut lui reconnaître que sur son coaching, sur le plan de jeu, il a été très efficace, c'était très bon. Sa défense à 3 a très bien fonctionné contre Liverpool. Le plan de jeu, en se projetant vite vers l'avant, avec Daniel James et Rashford qui jouaient en fait assez écarté, plus comme ailier finalement que comme attaquant centraux, pour justement étirer la défense de Liverpool, et avec un Andreas Pereira qui est chez lui très libre en genre de numéro 10 ou faux numéro 9. Ça a très bien fonctionné pendant au moins une heure. Après, physiquement, ils ont baissé de pied et ils ont beaucoup reculé. Ils ont pris ce but à 5 minutes de la fin, qui est un petit peu dommage pour eux, mais tactiquement, il a plutôt été très bon hier contre Liverpool, plus que Jurgen Klopp par exemple, et ça, il faut lui reconnaître. Et je pense que c'est la touche un peu positive dont il avait vraiment besoin. Oui,
Après,
c'était très Ligue 1. Excuse-moi, oui, hein, il devrait Manchester... entraîner en Ligue 1 ce soir.
Voilà, mais Manchester United, qui dans l'un des plus gros matchs de l'Angleterre, si c'était le plus gros match de l'Angleterre, tourne à, je sais pas, 30% de possession et fait un gros match tactique uniquement parce que défensivement, ils ont bien tenu le coup face à un Liverpool qui a pas été très fort et que ils ont réussi à sortir 2-3 fois en contre. Je ne sais pas si c'est ça qui sauvera Solskjaer ou qui le fera basculer dans le camp des bons entraîneurs.
Mais t'as raison, Daniel. Mais le problème, c'est que c'est
faire le match défensif contre un gros.
Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Non, mais bien sûr, mais c'est un peu de. Bah, quand t'es Manchester United.
Il a fait une tirée d'oreille, comme on dit.
Quand t'es Manchester United, que t'es le club le plus riche du monde, normalement, tu dois pouvoir toujours proposer autre chose. Là, dans.
Bien sûr, mais avec les joueurs qu'il a, tu peux pas.
Non, mais c'est absolument vrai. Je veux dire, moi, je trouve, quand j'ai regardé, là, tu sais, c'était très drôle. Il y avait les compos qui tombent et tout. Tu regardes Manchester United, moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je regarde un match, je découvre des mecs que je connais pas. Je me dis, mais qui sont ces mecs? Mais comment ce club avec plus de 500 millions de budget, mais qui sont ces inconnus qui portent ce maillot? Qu'est-ce que c'est que cette équipe, ce coach? Mais quand, et là, ça revient à la question que je te pose depuis très longtemps. Et à chaque fois, on a la réponse. Mais tant que Manchester United, la boutique tourne d'un point de vue financier, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Sauf que j'ai lu il y a une ou deux semaines que, justement, d'un point de vue financier, les mauvais résultats, ce qui se passait à Manchester, il y a un peu, la boutique tournerait un petit peu moins et que Manchester pourrait perdre un petit peu de blé. Là, dans ce cas-là, immédiatement, code d'alerte atteinte, et là, il pourrait y avoir des changements.
Voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, le contrat.
Mais ça, je l'ai vu, ça. Économiquement, ça, comme on risque de commencer à souffrir un peu des résultats d'un Manchester qui n'est. Alors, on ne parle même plus de la zone Ligue des Champions, là. On est dans une autre zone du championnat. On n'est même plus dans la zone Europa League.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Deuxième partie de tableau, Manchester United, club le plus riche du monde. Je veux dire, comment les propriétaires peuvent. C'est inconcevable, quoi.
Tout à fait. Non, mais de toute façon, c'est le pire départ du club en 30 ans en championnat.
Mais je comprends même pas que Alex Ferguson ne parle pas. Il est encore en état de parler, Ferguson, quand même.
Ouais, mais tu sais, il parlait pas déjà quand il était entraîneur, encore moins maintenant.
mais d'accord. Mais là, deuxième partie de tableau, s'il parle pas là, il va parler quand?
Non, mais il parlera jamais. C'est pas son rôle. Deux, n'oublie pas que c'est lui qui a amené Solskjaer là où il est, qui lui a d'abord donné le poste d'intérimaire et ensuite qui lui a donné, qui a fait le forcing pour qu'on lui donne le poste de façon permanente après la victoire au Parc des Princes contre le PSG, alors que tout le monde savait que c'était bien trop tôt pour lui donner après simplement 3 mois et demi dans le rôle d'entraîneur. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Simplement, sincèrement, je pense que si Solskjaer il va dans cette rencontre en disant à son équipe en faisant un 11 de départ plus offensif et en jouant à ses joueurs,
ils vont prendre une tôle, bien sûr.
Ils vont prendre une tôle. Ouais. Et là, ça servait à rien. Donc, c'est vrai qu'il a été pragmatique et c'est vrai que c'est quand tu regardes le milieu de terrain, McTominay, Fred et Andreas Pereira, tu dis non mais c'est pas possible.
Non mais parce que avec Ferguson, tu dis il parle pas. Sauf que sur quand ça allait pas du tout avec Mourinho, on disait pareil, il parle pas. Et puis à un moment, il avait quand même craqué. Et c'était justement dans un Manchester United-Liverpool que Liverpool avait dominé très largement. Je ne sais pas si ça n'avait pas fait 3-0, un truc comme dans le genre.
La différence, c'est que Mourinho, c'est pas le fils prodige. Tu vois, donc,
mais il avait beaucoup soutenu.
C'est ça.
Il avait quand même beaucoup soutenu. Ferguson était un des premiers
de la maison.
Il l'aimait bien et il avait beaucoup œuvré à sa venue.
Bon,
et il était très satisfait de
voir arriver. On va conclure le dossier
et là,
United.
Suite à une défaite, alors c'est vrai, parce que ce match-là compte beaucoup pour Ferguson, qui est un vieux de la vieille, qui ce genre de match le laisse jamais indifférent. Bon, tu me diras que ça fait un partout. Mais après, il avait fini par parler. Et il avait un peu lâché Mourinho suite
après,
à.
Après, sur, juste ça. Sur la tactique, j'entends ce que tu dis sur le classement, sur l'exigence qui est insuffisante de la part des patrons. Mais si tu arrives dans ce match avec un Liverpool, qu'on pouvait attendre meilleur d'ailleurs. Je veux dire, il a fait le match effectivement un peu parfait
oui,
dans son rôle.
Le dire, je suis d'accord avec vous.
Non, mais c'est les matchs les plus faciles à faire. Voilà,
oui, sans doute, faut les faire quand même parce que t'as quand même Liverpool en face. Tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Il se trouve que tant mieux, ils ont été un peu moins forts que d'habitude. Donc voilà.
Ça ne va pas prendre le premier but déjà.
C'est plus simple.
Allez, juste pour finir. T'as de la chatte aussi, Julien, d'avoir ton premier but à toi accordé. Alors qu'il y a faute sur Origi, jamais la VAR regarde et tu vois, mais juste pour finir, on va voir la semaine prochaine, ils vont à Norwich, donc c'est une proposition complètement différente de celle de Liverpool à l'extérieur en plus. Là où il faudra faire sûrement le jeu et tu pourras pas jouer avec tes 5 mecs derrière comme t'as fait avec 30% de possession. Et là, on verra ce que Solskjaer va faire et on verra comment son équipe va se comporter.
Je préfère t'as de la chance, moi, personnellement, mais bon, c'est pas grave.
Pardon, Aboudé, c'était pour répéter
ce que t'es pas Guy Deschamps. T'es pote avec Deschamps, tu
Aboudé, dis. Merci à toi, en tout cas. Et,
merci, messieurs.
Et rappelle quand tu veux, évidemment. Salut, Aboudé, à bientôt.
Pour du caractère. Ouais, on dit du chien, pourquoi on dirait pas de la chatte? Ça reste qu'un animal, hein.
Ah bon, ouais.
Je sais pas ce que tu vois d'ailleurs d'autres.
Ouais, chat, c'est le fait.
C'est juste un animal. C'est la femelle du chat.
Barcelone, Fredo, tu voulais parler du trio magique de devant.
Oui, avec une information qui vient de tomber. C'est le journal El Mundo, le journal d'information générale El Mundo, et ça a été à moitié confirmé par le Barça. Vous vous souvenez de ce conflit avec l'Atlético par rapport à la clause de libératoire de Griezmann? Vous vous souvenez que le Barça payait 120 millions et 200. Que l'Atlético estimait que comme ils avaient négocié avant le changement de la somme au 1er juillet, bah, que ça coûtait finalement 200. Bon, il semblerait qu'ils aient trouvé un accord.
160.
Non, 15 millions. 15 millions que va payer le Barça à l'Atlético avec un droit de péremption sur, pour un prochain transfert, en tout cas une petite priorité, pour Saúl et Jiménez. Voilà, finalement, l'Atlético était pas si sûr de lui que ça, mais le Barça non plus, donc voilà, il y aura pas de menace d'aller en justice comme ça avait été avancé par le propriétaire hein, de l'Atlético Miguel Angel Marín. Donc voilà, cette histoire s'arrange entre deux clubs qui s'entendent plutôt bien finalement, malgré toutes ces menaces. Bah, le trio, oui, ce qu'on appelle la GSM, Griezmann, Suarez, Messi.
Il se capte bien. La GSM.
3, exactement, facile. 3-0 sur la pelouse d'Eibar, un stade qui n'est pas facile. Aller jouer à Eibar, qui est le plus petit stade de la Liga, un stade basque, c'est jamais très, 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 très simple pour les grosses écuries. Et il faut quand même reconnaître que Griezmann, il marque le premier but, il est passeur décisif sur le deuxième et il est à l'origine du troisième. On peut dire que c'est son meilleur match depuis qu'il est sous le maillot du Barça, même s'il y a eu ce doublé contre le Betis. On sent qu'il fait des efforts énormes, Antoine, pour se faire accepter. Bah, s'il continue comme ça, ils vont bien finir par croire que c'est mieux d'avoir lui plutôt que Neymar, quoi. Mais c'est vrai que le Barça va beaucoup mieux. Mais je fais un lien par rapport.
Attention, faut pas toucher à vos micros, les gars, parce que sinon on entend que ça.
Oui, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment le bordel. Hein.
Avec Zidane, ce qu'on disait juste avant. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, on parlait du départ et du couteau sous la gorge d'un certain Ernesto Valverde. Hein. Donc ça va très très vite dans le football. 3 semaines plus tard, il est leader. Et puis en Ligue des Champions, ça va pas trop mal. Donc voilà, un déplacement du Barça sur la pelouse du Slavia Prague. Tout va bien maintenant du côté des Catalans. Et puis, l'autre information aussi, c'est que, a priori, le Classico, ça va être confirmé dans les prochaines minutes, va se jouer finalement le 18 décembre et non samedi prochain.
Pas le 7 décembre, au début, ça devait être reporté au 7, bah, non, le 18.
Oui, parce qu'en fait, ouais, mais ce que voulait Tebas, en fait, alors, bah, on peut vraiment rapide, parce que le 7, c'est un samedi. Et le samedi, il voulait jouer à 13h pour l'Asie. Et c'est plus vendeur un samedi qu'un mercredi soir. Mais il fallait bousculer les calendriers parce que
le 18, c'est quoi? C'est un
mercredi soir et il y a coupe, mais où les gros ne jouent pas. Donc voilà, et les deux clubs étaient intéressés par le 18. Et le comité
un mercredi
de
soir
de la Ligue. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de samedi libre.
Ça veut dire que Noël tombe un mercredi alors?
C'est à calculer, je crois.
Ne parle pas trop de Noël, ça me rappelle une phrase de Fred.
Ouais, mais moi aussi, ça me rappelle une grave douleur et oui.
Ça me rappelle douleur. Un truc. Qui...
Ah, ouais. Attends, ouais, ça reste comme ça. C'était quoi l'histoire?
Oh non, on va pas recommencer, putain. Oh non, c'est bon là. De toute façon, en ce moment, je suis zèle, tout ça, tout va bien. Donc, et les deux clubs, en fait, et les deux clubs, pourquoi
juste
ils veulent jouer 18?
Le bout de phrase.
Ouais. Pourquoi?
Le bout de phrase mythique.
Ouais. T'as pas le droit de me faire ça avant Noël, ouais, parce que quand on n'a pas bu, c'est
non, mais il faudrait l'avoir en
Noël,
VO.
C'est très
en VO, il faudrait l'avoir. Si Paul trouve la VO.
Vous voulez pas savoir pourquoi les deux clubs voulaient le 18?
Si, parce qu'on écoute l'after le samedi, donc on sait.
Ah, toi oui, mais les autres non. Mais parce que le 18, c'est après la fin des qualifs de la Ligue des Champions, donc ils seraient beaucoup plus tranquilles, ils risqueraient pas de se fatiguer avant de jouer un match décisif. Voilà.
Polo!
Oui.
Mais incroyable resserrement en tête de la Bundesliga. C'est un truc de dingue cette année-là.
Bah, c'est un truc de dingue, c'est jamais arrivé. Alors déjà, avant la cette huitième journée, on n'avait pas vu ça depuis la saison 2006-2007, avec un changement de surprise. Et si, je me suis rattrapé. Mais bon, ça va venir.
C'est quoi dans la nuit du 8 mars au 27 avril?
Ouais, c'est le saison d'Alaska.
avec la victoire surprise du VfB Stuttgart à l'époque d'Armin Fee. C'est très intéressant ce qui se passe, et la trêve internationale d'ailleurs a été l'occasion de discuter. Je vous parle souvent de la logique de densité dans un championnat qui à mon avis est un petit peu mis de côté par les médias, ce que je trouve tout à fait dommage. Et l'une des explications en fait de ce qui se passe en ce moment, c'est que lorsque tu as un championnat, et je m'excuse de parler gros sous, mais qui chaque année augmente de 10 à 15% ses recettes l'an, au bout d'un moment tu te retrouves avec des clubs qui ont 200-250 millions d'euros de chiffre d'affaires, et avec ça tu peux avoir construire des belles équipes. Donc la question n'est pas de savoir si Mönchengladbach arrive au niveau du Bayern, ou si Schalke, qui est en crise et qui va d'ailleurs sûrement perdre 25 à 30 millions d'euros l'année dernière, peut concurrencer le Borussia Dortmund. Non, cette saison d'ailleurs, enfin, 2010-2019. Et toutes ces choses-là, si tu veux, font qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir des équipes plus qu'intéressantes. Moi, j'appelle ça un peu des équipes quantitatives. Tu vois Wolfsburg, par exemple, ils ont deux équipes. Ils ont 20 à 25 joueurs qui sont titularisables en dehors des blessés, évidemment, à chaque match, ce qui leur permet de jouer toutes les compétitions. Et puis, en plus, on a expliqué de toutes les façons, l'évolution du football allemand depuis 10-15 ans, même s'il n'a pas que des qualités, fait que quand même, tu as beaucoup d'équipes qui jouent. Quand tu as des coachs comme Jürgen Klopp qui sont arrivés, ou Thomas Tuchel, ou que Guardiola arrive dans un championnat, je peux t'assurer que c'est... Il y a quand même quelque part un peu de ruissellement dans les autres coachs qui arrivent.
Le budget d'un club,
tu crois à la théorie du ruissellement, ouais, toi, Polo?
Non, justement, j'ai failli. Je me suis dit,
Julien, seul moulin que tu aimes, il est rouge.
Non, mais justement, je me suis dit qu'il allait dire une grosse connerie.
Ah bah, tu l'as dit, voilà, ça y est. On va te retirer ta carte du parti.
C'est sorti tout seul. Polo, dis-moi, un club comme Fribourg.
Il n'a jamais eu la carte du parti, Polo. Laissez-le tranquille avec ça, il n'a jamais eu la carte du parti.
Un club comme Fribourg, qui est un peu une anomalie, il est en tête de champion. Ils ont quoi comme budget, eux?
Bon, alors aujourd'hui, Fribourg, c'est 100 millions d'euros. Donc, c'est un petit club en Allemagne. Non, mais attends, il faut être sérieux. Un club, si Saint-Etienne débarquait en Bundesliga, il jouerait le maintien. Aujourd'hui, l'Union
Berlin
va...
Nous aussi,
on joue le maintien. Oui, oui. C'est ça, c'est un truc qu'on a complètement oublié. C'est-à-dire qu'on est passé en 2-3 ans, j'ai vu la barre des 100 millions d'euros dépassée, mais d'une façon extraordinaire. Regardez Francfort, avec leur parcours européen l'année dernière, ils vont faire plus de 200 millions l'année dernière. Le budget pour cette saison, avec les ventes de Jovic et Haller, c'est 250 millions. Freddy Bobic a déjà prévu de passer à 300 millions. Le club de Cologne qui revient aujourd'hui
avec des droits
division,
de télé, précision, qui ne sont pas plus importants qu'en France. Hein.
Non, mais par contre, ça fait c'est de la croissance interne, plus les croissances externes, évidemment, les marchés internationaux.
Il y a mutualisation, Polo?
Oui, bien sûr, il y a mutualisation. Ouais,
l'Allemagne, c'est les ventes de joueurs et recettes stades. Recette stade incroyable.
Non, de moins en moins. Non, mais oui, par rapport à la France. La France, c'est de la rigolade à côté. Mais les recettes stades, si tu veux, sont de moins en moins importantes en pourcentage, puisqu'il y a d'autres recettes qui arrivent. En pourcentage des revenus globaux, hein. Ouais. Évidemment, tu regardes les sponsors, c'est 23-25% de l'ensemble des recettes d'un club. Tu regardes le Bayern Munich, par exemple, les recettes TV nationales, c'est 8% du budget global. On s'en fiche complètement des droits.
Combien il donne Stoffler pour être sur le maillot?
Ah, c'est pas Stoffler. Si?
Non, c'est... Ah, excuse-moi, ils ont Stoffler.
Un petit Stoffler.
En haut à gauche, Stoffler.
Stoffel. Non, Stoffler. La maison mère de Stoffler, c'est Pierre, s'appelle Pierre Schmitt, premier charcutier de France. Voilà, et donc c'est Pierre Schmitt qui donne, c'est pas
oui,
Stoffler.
Sur le maillot, on voit Stoffler.
Non, prévenez les.
Et Pierre Schmitt.
Ça donne beaucoup.
Ça dépend. À l'extérieur, c'est Stoffler. À domicile, c'est Pierre Schmitt.
C'est un sponsor de qualité entre les brioches Pasquier et les Stoffler.
C'est violent.
Et Strasbourg. Sur les maillots.
Et Strasbourg, tu dois vendre un peu, toi, tes meilleurs produits.
Pourquoi on avait bien à Strasbourg?
Tu dois un truc industriel, la choucroute industrielle.
Elle est comment la Stoffler, Gilbert?
Alors, il n'y a rien de mieux que la vraie tarte sorbet au feu de bois. La vraie tarte sorbet au feu de bois.
Non, mais on parle de choucroute.
Que tu vas manger. Que tu vas manger, par exemple.
C'est la choucroute.
Non, t'as tout.
Non, Stoffler, il y a tout.
Oui, mais ce qu'ils mettent en avant dans les pubs et tout, c'est la choucroute.
Est-ce que le grain de genièvre est vraiment de qualité?
Elle est sous vide.
Est-ce qu'il y a un vrai chou?
Est-ce qu'on considère que la saucisse, c'est comme une pizza Sodebo, ou comment
ça se passe? C'est mieux.
C'est mieux.
Ah, oui, je vous conseille la fourchette.
C'est mieux la choucroute.
Écoute, on invite Stoffler à nous envoyer 2-3 kilos de choucroute.
Je connais bien le patron, c'est un ami. Donc si tu veux qu'il
ça m'aurait étonné.
2-3 choucroutes, il le fera avec plaisir. Il regarde régulièrement l'after d'ailleurs.
Ah ben, je veux bien goûter la choucroute.
Pierre Schmitt.
Il s'appelle Pierre Schmitt.
Où est-ce qu'on mange la meilleure choucroute à Paris?
À Paris? À la meilleure choucroute, on la mange à côté de Nation. Ah bon? Surtout à côté de Nation.
J'aurais dit près de la gare Saint-Lazare, il y avait la maison de l'Alsace, non? Il y a pas un truc comme ça?
La maison de l'Alsace sur les Champs-Elysées. Mais
c'est un peu de l'arnaque.
C'est des escroqueries, ça.
Oui, d'accord.
C'est l'escroquerie.
Mais là où tu dis, c'est pas chez Jenny quand même.
Mais non, c'est à République, ça.
Bah, c'est entre République et Nation.
Non, c'est entre République et République.
Alors, comment il s'appelle ton resto, Gilbert? Comment il s'appelle?
Je vous donnerai ça, j'ai oublié le nom, à vrai dire. Mais c'est la meilleure choucroute est là-bas. Je vous le retrouve.
Est-ce que Ajorc, il y va quand il vient à Paris?
Ah non, il en bouffe tout le temps là-bas. Il va pas se mettre à bouffer de la choucroute.
Bah, tiens, un Alsacien, il bouffe de la choucroute où qu'il soit.
Bah, non, mais allez,
c'est ça, Madame Gilbert.
Je suis Toulouse, là. Tu bouffes du cassoulet tout le temps.
T'en manges combien de fois par mois?
Ça fait très longtemps que je peux manger de choucroute.
Ah bon?
Gilbert, je finis.
Il peut finir, Polo, parce que moi, je sais plus où il en était.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est qu'il faut aussi que les coachs se soient mis au niveau. Et ça, c'est tout ce qu'on a parlé de la révolution footballistique allemande, qui a aussi été influencée évidemment par l'arrivée de Guardiola. Quand t'as des joueurs, quand t'as des coachs, pardon, comme Klopp ou Tuchel, qui ont influencé d'autres coachs, qui ont lancé d'autres coachs comme Nagelsmann, ou qu'on parle de Marco Rose. D'ailleurs, je vous remercierai jamais, messieurs, avec Julien, de Julien Langlais, de nous avoir invités la semaine dernière pour parler de Jürgen Klopp. C'était jeudi dernier, si ma mémoire ne fait pas défaut, parce que hier, dans une émission allemande qui s'appelle Doppelpass, on a parlé d'un coach qui est aujourd'hui disparu et qu'on a parlé la semaine dernière qui s'appelle Wolfgang Frank. Donc, toutes ces choses-là.
Quel rapport avec la choucroute? Excuse-moi, Polo, je suis désolé, mais je devais la faire.
Oui, c'était tentant, j'avoue.
Mais parce que c'est pas qu'une question d'argent quand tu développes un championnat. Il faut aussi que les équipes jouent pour que ce soit intéressant à voir jouer. Or, aujourd'hui, on n'a plus vraiment de coach, sauf un ou deux qui sont de l'ancienne génération, qui proposent des, ou qui évidemment n'ont pas vocation d'aller jouer les premiers rôles, qui bétonnent un petit peu. Mais tout ça, ça se voit largement dans les matchs qu'on peut regarder les week-ends. Donc voilà, c'est aussi simple que ça.
Il n'y a plus que Paderborn qui n'y arrive pas.
Paderborn n'a rien à faire en Bundesliga. L'Union Berlin, c'est pas
l'argent, enfin. Polo, je suis d'accord avec toi, mais l'argent, je vois mon exemple espagnol, c'est à partir du moment où il y a une vraie répartition des droits que la Liga commence à se resserrer. C'est énorme. L'effet, il a été au bout de 2-3 ans.
Oui, les modèles ne sont pas différents.
Les clubs moyens avec des plus gros budgets.
Les modèles ne sont pas différents. La Bundesliga a une chance extraordinaire par rapport à d'autres championnats, et notamment la L1, c'est qu'elle ne dépend pas des droits télé nationaux. Donc ça représente 25% des recettes, c'est tout. Le reste, c'est le stade, c'est les transferts et c'est les sponsors. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si, pour une raison X, Y, Z, Bein ou Canal se casse la figure, ou qui vous voulez se casse la figure en France, c'est une catastrophe pour le foot français. Si Sky se casse la gueule en Allemagne, c'est pas une catastrophe pour le foot allemand. C'est très, très différent. On ne met pas ses œufs dans le même panier.
Bon, alors, il nous reste quelques minutes. Il faut quand même qu'on passe à l'Italie. Mais Polo, évidemment, vu que vous me demandez les conseils, si jamais tu vas en Alsace, la meilleure tarte flambée, c'est au Schaeferhof à Dupigheim. Hein. Tu peux le noter, Daniel.
Oui, mais quand j'irai en Alsace, t'inquiète, je contacte avant.
Thiago Motta, mon petit Simonet, va sans doute être sur un banc italien dans les heures qui viennent.
Au Genoa.
Oui. Oui, va prendre le banc de touche de Genoa. Pas un cadeau les Genoa cette année, mais je suis convaincu que Thiago Motta va faire les boulots. Mais là, Polo parlait de la nouvelle vague un peu d'entraîneurs en Allemagne. Il y a certains vieux qui en appellent même plus. Là, pour vous dire, les choix du président de Genoa, Preziosi, qui est un type un peu spécial, un peu fou dans ses choix. Les rois des jouets, qui est le Genoa, c'est son jouet préféré. Là, quand même, il pouvait choisir entre des noms un peu anciens, des entraîneurs qui pouvaient l'aider à sauver Genoa. Il fait un choix totalement nouvel.
Avec un ancien du club. Et ça semblait presque écrit à l'avance que Thiago Motta démarre sa carrière d'entraîneur là-bas, non?
Oui, d'un certain côté, oui, au moins, c'était une chose sur laquelle moi j'aurais misé depuis des années, que Genoa, c'était les bons lieux où il aurait commencé sa carrière d'entraîneur aussi, parce que c'est là-bas qu'il a recommencé à jouer au football après ses graves blessures et il a relancé sa carrière. Mais le fait que Thiago Motta puisse aller chercher un club qui a certains bons joueurs, on peut dire le phare de l'été, c'est l'AC Genève qui avait été une des protagonistes de la saison magnifique de l'Ajax, qui était venu vivre un nouveau défi au Genoa, mais pour l'instant n'a pas marché, un peu comme toute l'équipe. Je trouve que le défi de Thiago Motta, c'est vraiment au-delà de sportif, c'est même pour lui d'aller chercher sa nouvelle vie, et dans un contexte où la Sampdoria, il y a l'autre club de Genoa, l'autre club qui est à dernière du classement, Genoa c'est avant-dernière, et aller chercher Ranieri, donc bétonner, assurer les maintiens avec un entraîneur d'expérience, là tu vois vraiment aller chercher une autre chose. Et je pense que pour Genoa, c'est vraiment le meilleur des choix. tu cherches que de faire quelque chose de nouveau. Et ça peut faire du bien vraiment en, globalement à l'idée de football italien d'aller continuer à chercher des entraîneurs qui proposent quelque chose de différent.
Raconte-nous pour conclure la dinguerie Ibra, là, peut-être de retour.
Bah, Ibrahimovic s'est propose. On sait très bien qu'Ibrahimovic
en plus s'est propose.
Bah, évidemment que c'est lui qui se propose.
S'est propose. Parce que oui, son agent cherche de les placer, il est en fin de contrat en décembre, mais on a l'impression vraiment qu'en Italie, plusieurs clubs se sont en train de regarder, de penser, de prendre Ibra, mais surtout, les supporters aimeraient bien de les revoir. Alors, il y a trois options aujourd'hui qui sont un peu plus chaudes. Celle une, c'est Napoli, où Carlo Ancelotti, qui l'a bien entraîné, avec qui il y a eu une très belle relation, ne ferme pas la porte. Surtout, il faut voir qu'est-ce qui se passe d'ici en décembre, quelle sera la position du Naples, et qu'est-ce qui va se passer avec Milik et les autres avant-centres de Napoli, s'ils marchent bien ou pas. L'autre, c'est l'Inter, avec la blessure d'Alexis Sanchez, c'est trop un peu en difficulté devant, et donc, mais on va voir quand.
Les mecs l'ont vu sa dernière année à Manchester United, là?
Mais au Galaxy, il est pas mal.
Oui, au Galaxy.
Non.
Et bonjour, à Serie A, c'est United, pas la MLS quand même.
Il avait bien sûr, mais bien sûr. Après, aujourd'hui. Oui, il s'était blessé à la fin de la saison, il gagne l'Europa League, et donc ils reviennent, après ils partent en moitié de saison. C'était un peu. C'est un peu à moitié. Mais après, si Ibrahimovic revient dans son club, j'ai dit comme l'Inter ou Naples, il n'arrive pas pour être titulaire, même si lui, il a raconté à Sky il y a quelques jours dans une entretien, si j'arrive en Italie, je peux faire la différence, je peux marquer 15-20 buts.
Évidemment,
c'est
ça,
normal. C'est le personnage.
Est-ce que ça vient pas du fantasme Ribéry, là? Ils ont vu Ribéry arriver et flamber un peu, ils se disent un peu, oh, ça y est, les mecs ont 35 ans.
Ça peut être. Et c'est peut-être pas un hasard qu'une des clubs où il y a une vraie, pour moi, opportunité de voir Ibra, s'il a envie, c'est Bologne. Et pourquoi Bologne? Parce que c'est Mihajlovic qui est en train de faire un pressing sur lui, il a même avoué un peu à demi-mot, mais Mihajlovic il parle pas, il est en soigne encore pour la leucémie, mais il s'est fait des apparitions sur les bancs des touches, il y a des choses qui sortent de son entourage, et donc il y a eu un appel au téléphone entre Mihajlovic et Ibrahimovic, et Mihajlovic lui a dit, écoute, je t'offre ton dernier pari, viens faire 6 mois à Bologne, et apparemment Ibrahimovic a dit, pour l'instant j'y pense pas, mais je peux changer d'avis et merci pour la proposition.
Merci les gars, on se retrouve toute la semaine en Ligue des Champions et en Ligue Europa bien sûr. Dans quelques instants, Julien Cazard parle de Jordan Amavi. Et puis je remercie Mika qui m'a remis le nom du resto là. C'est Bofinger, Bofinger comme on dit à Paris. La choucroute à
Bofinger.
Ah bah oui, c'est là la meilleure.
C'est à
Bastille.
Bofinger à Bastille.
Rue de Bastille.
Ah bah oui, bah c'est bien évidemment.
C'est l'une de mes adresses préférées.
C'est un must, Bofinger.
Et bah voilà.
Tu dis Bofinger toi?
Bah
non, on dit Bofinger à Paris.
Bofinger, ouais.
Polo, tu dis comment?
Bofinger.
Voilà, c'est ça. Bah, oui, merci Polo. Allez, dans quelques instants,
je disais Goldfinger.
Et le quiz, aussi. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.